Messieurs, dames, bonjour, bienvenue dans Estivalitude. Alors, s'agit-il d'une guérite de plage, d'une paillote en bambou, d'un food truck ou d'une baraque à sandwich? Bah, Estivalitude, c'est un peu tout cela. C'est la petite boutique éphémère qui ouvre chaque jour sur France Inter de 9h à 10h. Et avec ceci...
C'est ouvert à tout le monde.
Tout le monde.
Tout le monde.
Ouais, tout le monde y sera.
Formidable.
Olivier Ducastel, avec votre complice Jacques Martineau, vous imposez au cinéma une personnalité duelle et inclassable dont témoigne votre dernier film que j'ai trouvé tout à fait lunaire et passionnant, Au Perché. Bonjour Olivier Ducastel.
Bonjour.
Loïc Le Floch-Prigent, vous revenez de loin, dites donc. Vous avez dirigé les plus grandes entreprises, vous avez connu les tribunaux et plus encore, et vous êtes désormais consultant, écrivain et conférencier, et vous venez nous voir car vous figurez dans le festival Fort en Musique qui se déroule à Giromagny sur le territoire de Belfort. Bonjour Loïc Le Floch-Prigent.
Bonjour.
Le fait est là, ce matin, je reçois deux inclassables. D'un côté, un réalisateur qui explore les comportements limites. De l'autre, un authentique personnage de film, Magnéto Juliette.
Estivalitude.
Mais qu'est-ce que ça veut dire d'abord ?
Ça veut rien dire.
Christophe Bourseiller, sur France Inter.
Loïc Le Floch-Prigent, vous avez déjà vu des films d'Olivier Ducastel et Jacques Martineau ?
Eh bien non.
Pas du tout.
Mais comme j'ai des enfants qui sont dans cette mouvance, oui. De mes deux filles, elles ont vu et m'en ont parlé.
Alors la mouvance, c'est quoi la mouvance ?
Ben, c'est-à-dire que j'ai ma fille aînée et productrice de dessins animés.
Ah oui.
Et ma cadette est monteuse, chef monteuse.
Ah oui, donc elles sont dans le cinéma d'une manière ou d'une autre, dans l'univers du cinéma. Bien sûr. Voilà. Et vous, Olivier Ducastel, si je vous dis Loïc Le Floch-Prigent, vous pensez à quoi ? Soyez franc.
j'ai pensé, mais c'était pas très clair effectivement. Enfin, je vous situais très bien dans le monde de l'industrie. Et puis je me souvenais effectivement que vous aviez eu des ennuis, judiciaires. Mais pas plus que ça non plus. Et en fait, après, ce qui m'a amusé, c'est que même si ça n'a pas duré très longtemps, vous avez dirigé la SNCF. Or, j'ai un lien comme ça, comme tous les enfants de cheminots avec la SNCF.
Ah, parce vous que êtes fils de cheminot et vous ancien patron de la SNCF.
Ma maman a travaillé.
Voilà le lien.
L'essentiel de sa carrière à la SNCF, effectivement.
Voilà. Alors moi, Loïc Le Floch-Prigent, pour être franc, quand je pense à vous, je pense un peu à ça.
Le Floch-Prigent a commis des malversations gravissimes afin de s'enrichir personnellement, écrivent les juges. 5 ans de prison, 375 000 euros d'amende.
Et de façon assez paradoxale pour Loïc Le Floch-Prigent, maintenant c'est le moment de l'apaisement et le moment de l'aménagement de sa peine, puisque la confusion ne fait pratiquement aucun doute. Il n'y aura pas l'appel contre lui, il ne fera pas appel. Et aujourd'hui, il veut commencer à organiser son futur, c'est sa seule préoccupation.
6 ans d'instruction, 3 magistrats instructeurs, 5 mois de procès, 4 mois de délibéré, un jugement de 650 pages, des condamnations pénales lourdes assorties de condamnations morales sans appel. Ce soir, de nombreux magistrats pensent que le procès Elf redore le blason de la justice financière.
Vous êtes un personnage incroyable, Loïc Le Floch-Prigent. Vous avez été PDG à 39 ans, vous avez dirigé Elf, Gaz de France, la SNCF. Vous avez été mis en examen 28 fois. Alors c'est vrai que vous avez purgé vos peines, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous êtes ici, bien sûr. Mais c'est vrai que vous passez pour un personnage un peu sulfureux, vous êtes un peu controversé. Vous l'assumez pleinement.
C'est-à-dire, et c'est pour ça que j'ai écrit le livre qui s'appelle Le Mouton Noir.
Bien sûr, en 2018.
En 2015.
Pardon.
Et parce que c'était comme ça que Mitterrand m'appelait, et parce que je ne faisais rien comme les autres et j'avais mon franc-parler. Voilà. Et je continue à l'avoir et je suis très content.
Olivier Ducastel, vous pourriez faire un film sur Loïc Le Floch-Prigent ?
Oui, certainement. Enfin, en tous les cas, un film, même si j'ai effectivement jamais vraiment été sur ce terrain en fiction, mais un film très documenté sur un événement contemporain, on va dire, avec de la complexité, et puis effectivement une dimension. Enfin, j'imagine quelque chose effectivement qui pourrait avoir une dimension un peu de thriller ou de film effectivement.
Il y a une dimension philosophique dans le parcours de Loïc Le Floch-Prigent qui a dit souvent dans ses interviews d'ailleurs. Écoutez, enfin, je veux pas me mettre à votre place bien sûr, mais écoutez, moi je suis dans la réalité. Il y a les bons sentiments et moi je suis dans la réalité. Donc il y a un vrai un vrai sujet de débat, en fait, en réalité, derrière votre parcours étonnant, Loïc
Lefocq-Prigent. Oui, tout à fait, et ça continue à l'être, c'est-à-dire qu'il y a la réelle politique, et puis il y a les bons sentiments, et là, on est beaucoup plus dans la morale et les bons sentiments, et on oublie la réelle politique, et ça arrive tous les jours.
Hein, vous savez...
Les derniers événements montrent bien qu'on a oublié ce qu'était la politique et le bien commun. Alors on regarde si les gens qui la font sont moraux ou non. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est est-ce qu'ils sont efficaces ou pas.
Vous avez, je crois, inspiré un film, Loïc Lefocq-Prigent, c'était L'ivresse du pouvoir. C'est déjà fait, Olivier Ducastel.
C'est vrai.
L'ivresse du pouvoir de Claude Chabrol en 2006. On va écouter un petit extrait du film.
Deux gouvernements successifs m'ont accordé leur confiance.
Sans que vous en ayez abusé.
Ah oui? Comment ça?
Vous savez aussi bien que moi, non? Le petit jeu des commissions...
Je ne peux pas tout vérifier.
Non, moi, je peux le faire. Mais revenons sur terre. Moi, je vais vous dire ce que je pense. Je pense que vous avez honteusement profité de la situation et que vous avez poursuivi un but d'enrichissement personnel au profit de votre famille et de vos amis.
Mais c'est entièrement faux. C'est grotesque. C'est très mal me connaître. Je viens d'un milieu qui connaît la valeur du travail, madame. Je n'ai pas fait les grandes écoles. J'ai gravi des échelons un à un et sans jamais me préoccuper d'autre chose que de mon métier.
Je vous sais gré de m'épargner la grandeur de la France.
Alors, c'est François Berléand qui incarne un personnage qui, semble-t-il, en tout cas ce que disait Claude Chabrol, s'inspirait de vous. Vous avez aimé ce film?
Oui, j'ai trouvé ça
Vous êtes
pas
très
mal.
Cool là, par rapport à toutes les affaires.
Je vois pas comment ne pas être cool. C'est ma vie, j'ai eu une belle vie, j'ai fait des tas de choses, je continue à en faire, je continue à être industriel. Ma vie, c'est l'usine, je suis content d'avoir encore la direction d'usine, donc tout va bien.
Alors, on va pas entrer dans les détails de vos affaires, parce que là, l'émission prendrait une autre tournure, et évidemment, nous quitterions un peu le domaine de l'estivalitude.
Mais le sujet fondamental, c'est... celui que vous avez traité tout à l'heure. C'est-à-dire, est-ce que la politique est réelle ou est-ce qu'elle est imaginaire? Moi, je suis dans la politique réelle, je suis pas dans la politique imaginaire. Voilà.
Vous assumez,
si c'était à refaire, vous
le referiez?
Ah oui, absolument. Oui.
Tout pareil.
C'était pour le bien de la France, sans aucun problème.
C'est un personnage intéressant. Non, il est un peu proche du personnage qu'on ne voit jamais dans votre film. On va en parler tout à l'heure, bien sûr, Olivier Ducastel. Alors, Loïc Lefocq-Prigent, on va parler quand même concret. Là, vous venez nous voir pour un festival musical, donc dont j'ignorais l'existence, qui se déroule à Giromagny, près de Belfort, dans un fort, c'est ça?
C'est ça, dans un fort qui a été bâti en 1875, après la guerre qui a fait disparaître l'Alsace et la Lorraine de notre périmètre, et le fort de Belfort dominait à 600 mètres, l'Alsace et la Lorraine étaient surveillés.
Ah oui, c'est le fort qui domine Belfort.
C'est le fort qui domine Belfort, à 600 mètres. Et donc, j'ai été invité par un garçon qui joue de l'accordéon, divinement, de mon point de vue, qui s'appelle Pascal Comté et qui est un ami d'Andrea Ferréol, qui est une amie depuis longtemps, et de Marie-Christine Barrault également. Donc, et ils m'ont dit, l'année dernière, faut que tu viennes. Alors malheureusement, la date ne correspondait pas à mes possibilités, parce qu'il y avait la marée. Donc quand j'ai une grande marée,
quand vous avez une grande marée, vous c'est impossible de quitter votre Bretagne.
Impossible.
Ah oui, bien sûr.
Donc là cette année,
moi c'est pareil.
J'ai regardé les marées et j'ai dit c'est possible. Et donc voilà. Et je viens pour porter main forte à mes amis sur la musique et la littérature. Alors il se trouve que comme maintenant je suis à 12 ouvrages. Donc je dirais pas littéraire, mais écrit, j'ai un certain droit de parler littérature, écrivain, et de, voilà, tout.
Et concrètement, à quoi va ressembler votre intervention dans ce festival?
J'en sais rien encore.
Vous avez
J'attends ce qui est dit. C'est-à-dire que le titre de ce festival, c'est l'évasion. L'évasion par la musique, l'évasion par la littérature, l'évasion, etc. Bon. Et moi, j'interviens sur est-ce que l'évasion, c'est la liberté? Donc, c'est un thème qui me plaît, mais j'ai envie d'écouter un peu ce qui est dit avant pour savoir ce que je vais dire.
Voilà. Donc vous allez intervenir sous la forme d'une sorte de conférence.
C'est ce qui m'est demandé, mais donc je vais voir si ça marche.
Soyons cool. Alors vous allez me dire si c'est une musique que vous aimez, Olivier et Loïc. Biche, c'est le nom de l'artiste Biche, hein, et on écoute Kepler.
Thank you.
Sachez, Olivier Ducastel et Loïc Le Floch-Prigent, que Biche est le nom de scène d'Alexis Fugain, le fils de Michel Fugain. Et c'était Kepler Kepler.
France Inter, Estivalitude, Christophe Bourseiller.
Loïc Le Floch-Prigent, c'est quoi vos musiques, les musiques que vous aimez, que vous écoutez?
Oh, moi je suis dans la musique classique depuis l'enfance.
Ah ouais, c'est ça, vous quittez pas le classique?
Oui, mon grand-père,
d'où votre festival.
Mon grand-père était chanteur d'opéra, ma mère était choriste et soprano léger. J'ai vécu dans Mozart, Bach. Donc je suis souvent, lorsque je conduis, sur Radio Classique ou France Musique.
Bon, vaut mieux France Musique que Radio Classique. Hein,
je vous dis ce que je fais.
Bien sûr.
Encore une fois, je suis cash. Hein, je raconte pas de sottises.
Et vous, Olivier Ducastel, dans votre film Au Perché, il y a des musiques techno qui sont très bonnes.
Oui, alors j'ai découvert... c'est pas tout à fait vrai parce que... Je crois que j'écoutais déjà Kraftwerk quand j'étais ado. Mais disons que j'ai redécouvert la musique électro grâce à un certain nombre de collaborateurs sur des projets récents et en particulier par rapport à la BO du film précédent de Théo Hugo dans le même bateau. Donc c'est les mêmes musiciens, c'est un groupe qui s'appelle Karel et Kuntur qui ont fait aussi la musique de Au Perché. J'aime bien effectivement le côté en fait je crois que il y a deux types de musique que j'aime vraiment beaucoup. C'est soit les musiques pour danser, même si je suis pas je me considère vraiment pas comme un clubber, mais bon, en même temps je reconnais que j'aime bien ça. Et puis sinon, moi j'écoute la musique vocale, on va dire, au sens très large. Donc j'écoute aussi de l'opéra, ouais. Où j'aime bien aller à l'opéra, écouter des chanteurs en direct. Et j'ai toujours beaucoup écouté de jazz vocal. Et puis sinon, j'écoute aussi de la chanson française.
Qui,
à texte,
par exemple,
on va dire, en jazz vocal.
Ouais.
Oh bah alors les grands classiques, mais c'est vrai que j'ai une passion pour Blossom Dearie.
Oui, c'est pointu.
J'aime beaucoup Shirley Horn. Mm-hmm. Mais sinon, j'adore Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan. Enfin bon, je les écoute tout à tour de rôle. Alors c'est vrai, vous avez remarqué, j'ai cité que des femmes. Je connais un peu moins bien les hommes, les chanteurs masculins en fait.
Alors je vais vous faire une confidence, Olivier Ducastel. Quand j'ai vu votre film Au Perché, moi j'ai pensé à ça.
Mais qu'est-ce qui vous arrive à tous, hein? Vous savez qu'il est coupable et qu'il faut qu'il paye, vous le laissez filer entre vos doigts.
Comment on le laisse filer? Êtes-vous chargé de l'exécuter?
Parfaitement!
Peut-être voudriez-vous abaisser la manette?
Pour ce gosse, je suis tout prêt à le faire.
J'en suis désolé pour vous, je n'en vis pas celui qui devra abaisser la manette. Depuis que vous êtes ici, vous vous conduisez comme si vous aviez mission de venger la société. Vous voulez que ce gosse meure parce que vous y tenez personnellement et non pas à cause des faits.
Vous êtes un sadique. Vous, laissez-moi tout, je pourrais s'escraper, je pourrais s'escraper, salaud!
Vous avez réellement l'intention de me tuer?
Alors ça, c'est un extrait d'un film célèbre, ouais, que tout le monde connaît, ouais, que tout le monde a vu, 12 hommes en colère. Alors c'est vrai que votre film, Au Perché, ça se passe dans un appartement, on est dans un lieu fermé comme 12 hommes en colère, c'est presque du théâtre filmé. Donc 5 personnes sont réunies dans un appartement qui est tout en haut d'un immeuble, donc il est Au Perché, et ils ont pour point commun d'avoir été les victimes du même pervers, on peut dire du même pervers narcissique.
Oui, enfin, je pense qu'aujourd'hui, on dirait ça comme ça, effectivement, parce que c'est pratique comme concept, et puis je pense que ça parle à beaucoup de gens.
En même temps, c'est un peu un cliché.
Voilà, c'est un peu un cliché, mais en même temps, je me suis rendu compte, en préparant le film, et depuis qu'il est fini, que malheureusement, quand on parle de manipulation dans des sentiments amoureux, de perversion, de domination, il n'y a pas énormément de gens qui disent « Ah, ça m'est jamais arrivé ».
Donc tout le monde a le sentiment à un moment donné d'avoir été... Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi ce personnage qu'on ne voit pas dans le film, mais qui est donc celui qui a fait souffrir les 5 personnages principaux de votre film, en quoi il est toxique? Qu'est-ce qu'il fait de toxique concrètement?
Alors il fait que des choses anodines. Par contre, là où il est vraiment toxique, c'est qu'il entretient en fait la possibilité du sentiment amoureux chez des gens qui sont amoureux de lui, alors qu'en fait lui ne les désire pas,
alors qu'il n'en a rien à fiche,
et ne les aime pas et n'aime que les voir souffrir.
Et il a aussi une dimension assez curieuse. Vous le dites à un moment donné, un des personnages le dit, c'est un caméléon.
Oui, alors je crois que c'est une des caractéristiques des gens qui aiment effectivement manipuler d'autres gens, c'est qu'en fait ils ont la capacité, une capacité analytique assez aiguisée, et que en fait en fonction de la personne qui est en face d'eux, ils s'adaptent, et que ils seront effectivement passionnés d'architecture si la personne qu'ils rencontrent est un passionné d'architecture, et le lendemain passionné de pêche à la ligne. Si leur amoureux adore la contemplation.
Mais ça pourrait être votre personnage qu'on ne voit pas encore une fois, une sorte de Casanova, c'est-à-dire très amoureux de 5 personnes en même temps et essayant de leur faire plaisir. Or, ce n'est pas le cas.
Ah non, les histoires se sont plus ou moins enchaînées avec des petits chevauchements, mais elles n'ont pas toutes eu lieu en même temps. Mais non, il n'y a pas de dimension. Enfin, vraiment dans l'histoire qu'on voulait raconter, il y a pratiquement pas de dimension ou très peu de dimension de plaisir, on va dire, dans ce que les personnages ont vécu.
Et ils lui en veulent terriblement. Hein.
C'est pas aussi violent, on va dire, que 12 hommes en colère, parce qu'il n'y a pas la peine de mort au bout.
C'est vrai qu'on n'en sait strictement rien. Loïc, vous, alors j'imagine que des pervers, des manipulateurs, vous avez dû en croiser beaucoup. C'est dans le monde de l'entreprise, tout le monde est comme ça?
Non.
Question que je vous pose. Hein.
Non, je crois qu'il faut il faut prendre les gens. Non, je crois que l'homme de l'entreprise industrielle, parce que je parle d'industrie et pas d'entreprise tout court, c'est d'abord quelqu'un qui est passionné par son job et qui est passionné par le produit. Et donc s'il n'y a pas cette passion pour le produit et pour imaginer quel va être le développement du produit ou l'imaginer celui qui va suivre, il n'y a pas d'industriel. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup d'industriels français se sont cassés la gueule, parce que ils étaient en train de faire carrière au lieu de travailler sur le produit. C'est ça que je développe sur mon blog de façon hebdomadaire et dans les livres que j'écris, en particulier le dernier qui s'appelle « Il ne faut pas se tromper ». Donc je dis attention, un homme d'entreprise n'est pas un pervers narcissique, c'est d'abord quelqu'un qui aime son produit et qui n'est pas quelqu'un qui essaie de manipuler ses ouvriers, qui essaie au contraire de les rassembler pour qu'ils aient le sentiment de faire quelque chose d'extraordinaire ensemble. Donc voilà. Alors, il peut y avoir effectivement des gens qui sont de grands manipulateurs. Je vais pas les citer parce que je vois pas l'intérêt.
Ah, c'est dommage.
J'ai suffisamment. De façon générale, j'ai suffisamment d'ennemis comme ça. C'est pas la peine d'en rajouter.
Vous savez, voilà. Comme vous voulez. Hein, je vous comprends.
L'industriel tel que je le vois est un industriel qui n'est pas qui a un peu des magots. Parce qu'il faut encourager les gens à faire des choses, mais manipulateurs, non.
Alors moi, il y a un disque qui m'a profondément marqué à sa sortie, je vous le dis, hein, je vous fais une confidence, en 1977, c'est un disque des Talking Heads.
Oh,
La voix inimitable de David Byrne, c'était, excusez-moi, c'est un petit plaisir personnel, ça arrive de temps en temps, vous l'aurez compris, les Talking Heads Psycho Killer.
Christophe Bourseiller, Estivalitude sur France Inter.
Il faut avoir du courage, moi je trouve Olivier Ducastel, pour faire un film qui se passe dans un seul lieu, qui je crois est votre appartement, c'est chez vous. J'ai eu ça, vous avez... Merci, c'est
oui,
vrai
oui,
ou
c'est
pas
vrai. C'était essentiellement pour des raisons pratiques, on va dire. Bon, mais c'est vrai qu'après enfin non, voilà, c'était... On aurait pu trouver un autre appartement, mais il se trouve que l'appartement correspondait, on va dire, au décor du film. Bon, le film a aussi été un peu imaginé pour cet appartement. Mais enfin, c'est vrai qu'en général, un réalisateur, il dit toujours la dernière chose que je ferais, c'est de tourner chez moi. Donc maintenant, je sais pourquoi. Parce que c'est quand même très contraignant.
Ah ben j'imagine. Enfin, c'est très joli chez vous.
Merci.
Il est très beau l'appartement. Puis alors, sachez-le, Loïc, il a une vue magnifique sur tout Paris, vraiment, mais vous avez une... C'est formidable, vraiment, on a envie d'aller se faire inviter à dîner. On va écouter tout de suite la bande-annonce du film Au Perché.
Si c'était encore un jeu pervers, si on s'était encore fait prendre, si c'était lui qui avait organisé tout ça. Parce que pour l'instant, si vous voulez mon avis, je me sens pas particulièrement soulagé ou libéré.
T'es pas encore rentré. C'est comme le saut à l'élastique. Quand tu fais ça avec des copains, t'as pas envie, mais tu le fais parce que les autres l'ont fait.
C'est un spectacle. On me déshabille lentement devant tous ces gens, le sexe exposé, puis on me frappe. Non, on me fouette. Et tout ça, c'est dans la pièce, hein, c'est normal, ça fait partie du spectacle. Et personne ne sait que les coups sont donnés pour de vrai.
Il t'a dit ce qu'il fallait pour te faire plaisir. C'est un caméléon. Il a aucune personnalité. Il se transforme en fonction de sa victime. Lui, c'est nous, rien d'autre.
On tira la courte paille pour savoir qui serait mangé, pour savoir qui serait mangé, ohé, ohé.
Alors quand on écoute cette bande-annonce, c'est presque un film underground hein, que vous nous offrez. Là, il y a quelque chose d'un peu... c'est pervers.
Oui, en tous les cas, c'est marrant de l'écouter parce que c'est une bande-annonce qui est faite pour les écrans, on va dire, au départ. Et en fait, elle est très radiophonique, je trouve.
Ah, mais je trouve, tout à fait.
Et du coup, j'ai pas répondu à votre question, pardon.
Mais sur la perversion, c'est un film pervers quand même, très vénéneux.
Oui, alors je me rends pas exactement compte. J'ai l'impression que les choses pourraient être toujours plus perverses et plus vénéneuses, mais enfin, en tous les cas, l'idée effectivement, c'était que des gens qui se connaissent pas se rencontrent en s'exposant les uns aux autres avec le plus de sincérité possible, et effectivement qu'ils profitent en fait de cette rencontre, peut-être pour se faire du bien. En se racontant ce que tout le mal que leur a fait subir, donc ce sixième personnage qu'on ne verra pas dans le film, je pense que je peux le dire.
Alors ça, c'est le début du film, mais c'est vrai qu'à un moment donné, je veux pas raconter la fin parce que ça serait dommage, ça serait spoilé, comme on dit maintenant, divulgâché, mais c'est vrai que ça évolue, hein, je n'en dis pas plus, mais c'est vrai que ça évolue. J'ai lu Olivier, alors là, je veux dire, on a un point commun, c'est l'amour de Jacques Demy, et j'ai vu que vous dites, c'est mon maître Jacques Demy, mais vous l'avez très bien connu.
Alors j'ai eu la chance effectivement en sortant de l'école de cinéma, vraiment le premier travail que j'ai fait, c'est j'étais assistant monteur sur 3 places pour le 26 de Jacques Demy, parce que j'avais rencontré en fait à l'école Sabine Mamou qui montait à l'époque les films de Jacques, donc j'ai côtoyé Jacques pendant le tournage, parce qu'on avait la chance effectivement de monter pendant le tournage qui avait lieu à Bry-sur-Marne, puis pendant la période du montage qui se déroule toujours sur quelques semaines. Ensuite, à la fin du montage, Jacques a commencé à être malade, mais j'ai quand même gardé un petit peu le contact avec lui, j'ai pris un petit peu de ses nouvelles comme ça, mais un peu timidement aussi, comme on peut être un peu trop timidement, je dirais maintenant avec le recul. Voilà, mais parce qu'aussi je sentais qu'il était malade et que donc qu'il n'avait pas nécessairement non plus très envie de se montrer ou de voir des gens ou... mais en tous les cas, pour moi, c'est vrai que le fait, avoir la chance en fait de travailler avec le réalisateur, on va dire, que j'admirais le plus à l'époque, comme première expérience professionnelle et artistique, c'est vrai que c'est extrêmement fort. Ouais.
Loïc, vous connaissez le Jacques Demy, le cinéma de Jacques Demy?
Oui,
quand même. Vous avez entendu parler, les parapluies de Cherbourg, ça vous dit quelque chose?
Absolument.
Les Demoiselles de Rochefort.
Absolument.
Peau d'âne.
Oui, je vais au cinéma de façon régulière, mais je vois pas des films. Quand les films sont un peu trop intellectuels, je dirais que ça ne me détend pas, et donc c'est pas... pas vraiment mon truc. Voilà.
Alors on va vous détendre avec un extrait de 3 places pour le 26.
Je suis très intimidée parce que je m'attendais pas à vous voir comme ça face à face. Enfin, je veux dire, facilement. J'avais préparé des phrases formidables, vous savez, un speech dans le genre « je lui cirerai les pompes » et tout ça, et maintenant je trouve même plus mes mots. Je me sens parfaitement idiote.
Vous êtes mademoiselle ?
Oh pardon, je me suis même pas présentée. Mon nom de scène, c'est Roxane. Roxane parce que j'aime bien le rock et aussi mon Rostand.
Ah, parce que vous êtes comédienne ?
J'essaie, oui. Je me suis fixé un but dans l'existence. Vous ?
Moi ? Comment moi ?
Oui, faire ce que vous avez fait, faire ce que vous faites, quoi. Vous croyez que c'est impossible ?
C'est pas impossible puisque je l'ai fait.
Alors on a reconnu bien sûr Mathilde Amet et puis évidemment Yves Montand. C'est vrai que Jacques Demy, ça a quand même été une grande influence. Puis même on le sent parce que bon, Jacques Demy, on le sait, est décédé, mort du SIDA. Et peut-être qu'il vous a inspiré en partie le film Jeanne et le garçon formidable avec Mathieu Demy et Virginie Ledoyen.
Alors l'inspiration, en fait, ce qui nous a inspiré quand on a pensé préparer Jeanne et le garçon formidable, plus que vraiment la chose autour de, enfin les histoires dans le film autour du SIDA, elles viennent plus de l'expérience de Jacques Martineau comme militant ACT UP. Mais ce qui nous a vraiment inspiré, en fait, c'était et donné envie de faire le film et peut-être le courage aussi de se dire qu'on allait faire une comédie musicale après Jacques Demy, c'est que Demy était mort quelques années auparavant, 5-6 ans je crois, et que d'une part nous on avait un vrai manque de, en tant que spectateur, de comédie musicale, et puis on s'est rendu compte que c'était un manque que partageaient d'autres gens, et du coup on a eu envie effectivement de... Enfin je dirais qu'on a osé en fait faire une comédie musicale, peut-être c'est un peu, enfin c'est pas si paradoxal que ça, peut-être plus facilement que si Demy avait été vivant.
Ouais, je pense que ouais, c'est ça, que la mort du père libère l'énergie en quelque sorte.
Ouais, quelque chose comme ça.
Du père symbolique. Ouais. Hein. Alors, dans votre carrière, il y a un projet de film qui m'a beaucoup surpris. Écoutez ça, Loïc Le Floch-Prigent. C'est pas du tout ce qu'on attendait parce que vous avez beaucoup travaillé sur ces thèmes, le SIDA, des choses comme ça. Mais il y avait un projet de film sur l'actrice Arletty pendant l'occupation. Pourquoi ?
Alors en fait c'est un sujet qui nous a été proposé, en fait c'était presque une commande, et au début on s'est demandé un petit peu pourquoi on venait nous chercher, et puis on a lu l'autobiographie, on va dire, enfin le livre d'Arletty qui s'appelle La Défense, qui est, en fait, c'est pas vraiment un livre qu'elle a écrit, c'est un livre qu'elle a dicté, parce que c'est un livre qui date du début de sa cécité, et où elle raconte, comme des sortes de petits haïkus, télégrammes, elle raconte sa vie, mais vraiment dans des formules très brèves, assez lapidaires. Elle est très sincère, elle est parfois très en colère. C'est vraiment un personnage magnifique. Moi, c'est une actrice que vraiment j'adorais, mais dont je connaissais pas très bien l'histoire. Et du coup, c'est ça qui nous avait vraiment, vraiment donné envie de faire ce film. Et puis, c'est vrai qu'on a une... Moi, comme spectateur, je suis pas très client des films d'époque. Je trouve ça souvent très factice. Je crois pas à grand chose. Et du coup, en fait, on s'est dit que ce serait une expérience intéressante d'essayer de faire un film d'époque dans lequel nous on pourrait croire. Et donc notre idée, c'était en fait, en s'inspirant, je dirais, du modèle du dernier métro de François Truffaut, de faire un film pendant l'occupation dans lequel on filmerait pas de traction, par exemple, et un minimum d'armes et de militaires en costume. Et bon, on était là, on était obligé parce que l'amant d'Arletty, de temps en temps, il était en costume d'apparat. Mais voilà, c'est ça qui nous a vraiment plu dans le projet d'écriture. Bon, malheureusement, nous n'avons pas fait ce film.
Estivalitude sur France Inter.
Shut up.
Un morceau très reggae de la chanteuse californienne Claude Fontaine. Alors avec notre programmatrice Muriel Pérez, nous ne dirons jamais Fontaine, je ne boirai plus de ton eau, bien sûr. C'était Hot Tears, les larmes chaudes, tout un programme.
Vous avez dit.
Ah non,
vous l'avez dit. De quoi? Qu'est-ce que vous avez dit?
Pourquoi vous ne l'avez pas dit plus tôt?
Ne dites pas que les dirigeants sont moraux partout et que l'industrie est morale, je vous le croirais pas. Et si jamais aujourd'hui il existe des marchés dans des pays corrompus, il existe bien des corrompteurs. On n'est pas dans la morale, on est dans les affaires.
On n'est pas dans la morale, on est dans les affaires. C'est un peu c'est votre devise en quelque sorte, Loïc Lefloc-Prigent.
Une devise non, mais je crois qu'à certains moments, dans la société telle qu'elle est en train d'évoluer aujourd'hui, il faut rappeler les réalités. C'est-à-dire que, on arrive quand même à ce que les Américains, qui sont les maîtres du Nigeria, sont sans arrêt en train d'attaquer les corrupteurs, alors que c'est eux les corrupteurs, puisqu'il y a des corrompus. Donc il faut à un moment appeler un chat, et je l'ai toujours fait, et personne n'a eu à redire à ce que je disais, simplement... La morale intervient maintenant à tout bout de champ, et je pense que c'est inutile. C'est-à-dire que le problème, par exemple, du dernier avatar de Monsieur de Rugy n'est pas de savoir s'il mangeait ou non du homard. Le problème, c'est de savoir si c'était un bon ministre ou non. Et s'il était efficace ou non.
Vous êtes d'accord, alors, Olivier Ducastel, avec cette vision pragmatique, on pourrait dire, de Loïc Lefloc-Prigent, ou ça vous choque?
J'ai peur d'être resté un peu ado et d'être resté très 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 naïvement idéaliste, et effectivement dans un premier temps de plutôt effectivement je pense que j'aurais tendance effectivement à ramener d'abord les choses à la morale et à me dire que c'est la chose la plus importante.
Ce matin, dans la matinale de France Inter, c'était Olivier Faure qui était l'invité. Ouais. Loïc, vous avez démarré très à gauche. Vous avez été membre du Parti Socialiste, et même dans le Parti Socialiste, vous étiez membre de l'aile gauche du PS.
Absolument.
Que de chemin parcouru.
Avec Jean-Pierre Chevènement, mais ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que je continue à être un homme de gauche si jamais vous me définissez comme ça aujourd'hui. Puis il paraît que c'est en même temps qu'il faut être. Mais je suis un homme de gauche, simplement, je regarde les réalités. C'est ne pas dire que je ne sois pas idéaliste, comme vous voyez, la nature des choses fait que les idéaux se confrontent à une situation qui n'est pas celle qu'on avait imaginée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des dirigeants en Afrique, par exemple, qui sont soi-disant élus et qui ne sont pas élus et qui font essentiellement le bonheur d'eux-mêmes et de leur famille. Et donc voilà, c'est la réalité. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est avec ces dirigeants ou est-ce qu'on n'y vient pas? Alors bon, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Carnet de route d'un Africain » où je dis bon, j'en ai marre parce que j'ai 75 ans et j'ai plus envie. Voilà, j'ai plus envie de jouer. Mais je reconnais que les gens qui aujourd'hui veulent faire des affaires en Afrique, ils n'ont pas le choix, c'est tout. Je constate ça. Alors moi, j'ai plus envie. J'ai plus envie parce que je suis trop vieux. Voilà, c'est tout.
Olivier, vous avez une question à poser à Loïc Lefloc-Prigent. Alors, quelle est cette question? Souvenez-vous, vous voulez que je vous le rappelle?
Oui, je m'en souviens. Non, mais c'est parce qu'effectivement, je me demandais, en fait, ne vous connaissant pas, mais j'avais envie de savoir, en fait, quel genre de film vous auriez envie de faire, ou quel genre de personnage vous auriez envie de mettre en scène si demain vous aviez la possibilité de faire un film.
Dire que
Loïc Lefloc-Prigent devenant réalisateur.
Devenant réalisateur, bon, non, j'ai pas vraiment de personnage ou de sujet qui m'intéresse. Donc, moi, je suis pas créatif de film. Hein. Je regarde. Voilà.
Donc,
quels sont les personnages qui m'intéressent? Le seul personnage qui m'intéresse vraiment, dont j'ai lu tous les livres et dont j'ai vu tous les films, etc., c'est Winston Churchill.
Il est
tellement personnage de film partout. Le dernier film sur Winston Churchill est absolument extraordinaire. Moi, ça m'a enthousiasmé. J'étais là.
Alors, Loïc, vous avez vous aussi une question pour Olivier Ducastel. Laquelle est-ce?
C'est de temps en temps, je vais au cinéma et je vois la musique qui est raccordée complètement au film. Et puis à d'autres moments, les images sont belles, mais la musique est pour moi horrible et ça m'empêche de regarder le film finalement. Et je dis, est-ce que pour un cinéaste, puisque vous êtes à la FEBI, etc., est-ce que pour un cinéaste, être musicien est indispensable ou pas ? Parce que il y a un tel divorce de temps en temps entre l'image et la musique que, et alors, comme vous étiez avec Jacques Demy, le divorce n'existait pas là. Est-ce qu'il faut être musicien ? Voilà.
Alors j'espère qu'il faut pas être musicien parce que moi je suis pas musicien et je ne sais pas lire la musique, j'ai aucune pratique musicale. Par contre, je pense qu'il faut être vraiment amateur de musique, mais en fait, au cinéma, c'est un peu particulier parce que je dirais qu'il faut vraiment avoir une conception globale de la bande son. C'est-à-dire que, en fait, je pense que ce qui vous déplaît ou qui effectivement vous satisfait pas dans certains films, c'est quand la musique sort de nulle part, est complètement plaquée, n'a pas soit est ultra illustrative, soit est redondante. Et c'est vrai que le travail de composition musicale, le cinéma, c'est vraiment un travail d'équipe. Donc pour la musique, ça doit aussi être un travail d'équipe entre le réalisateur, le compositeur ou les compositeurs s'il y en a plusieurs. Je dirais que souvent c'est un dialogue aussi qui se fait beaucoup avec le monteur ou la monteuse du film. Moi, j'écoute énormément les monteurs avec lesquels je travaille justement sur ces questions de musique. Bon, après avec Jacques Martineau, effectivement, on a un petit avantage parce que Jacques, par contre, lui, il est musicien, il a été chanteur amateur, donc ça aide beaucoup. Ouais. Je pense que Jeanne et le garçon formidable ne pourrait pas exister effectivement si Jacques n'avait pas eu cette pratique musicale parce que ça lui a permis de travailler en collaboration étroite avec Philippe Miller, qui est le compositeur de la BO du film. Voilà, mais je suis d'accord avec vous, c'est un énorme sujet et c'est quelque chose qui est très difficile à transmettre à des élèves réalisateurs.
Alors vous avez une particularité, un point commun tous les deux, j'ai cherché, mais quels sont les points communs ? Il y en a des points communs mystérieux, il y en a un, c'est que vous êtes tous les deux bretons. Vous êtes bien bretons, Olivier
Ducasse.
Ah bah je croyais que vous avez grandi à Rennes ou
Non, Rouen.
Ah oui, enfin bon, c'est pas très loin. Bon, écoutez, j'essaie de vous trouver.
Ce qu'on appelle les cousins normands.
Non, mais vous savez que Loïc Lefleur-Prigent, vous êtes, bon d'accord, ok, je me suis planté, c'est pas grave, j'assume, moi aussi. Donc Loïc Lefleur-Prigent, vous avez écrit un guide de la pêche à pied.
Oui,
c'est quand même assez surprenant, non?
Fantastique. C'est-à-dire, j'ai eu beaucoup d'élèves, j'ai commencé à pêcher quand j'avais à peine, j'étais à pied. Et j'adore les espaces de l'estran, ces marais qui font des kilomètres. Et j'adore me promener. Et j'adore pêcher avec toute la dextérité qu'il faut, les crustacés, les ramener, les manger avec les amis. Enfin, tout ça, c'est un plaisir. Depuis l'âge de 5 ans jusqu'à 75, qui est absolument extraordinaire.
Alors justement,
et ça change tout le temps.
Justement.
Et alors on m'a demandé de faire ce guide de la pêche à pied en Bretagne, pas n'importe où.
Ah oui, bien sûr, uniquement en Bretagne.
Et j'ai fait ce guide et qui a eu pas mal de succès, qui continue à en avoir parce que les gens
ont d'une part
regardent quels sont les sols dans lesquels on trouve les rochers, etc. Petit un. Et deux, j'indique comment une préparation simple permet d'avoir les consistances et les goûts.
C'est un
guide culinaire aussi. Alors ça fait et tout a été pris en une journée par un photographe. Et je suis ma nièce et ma petite fille.
En plus, on voit toute la famille. Donc c'est vraiment une raison supplémentaire de se procurer ce guide. Voilà. Alors je vous ai demandé Loïc, quel était le son qui vous résumait. C'est beaucoup. C'est le son qui me résume. Alors justement, voici le son qui vous résume.
C'est la coquille Saint-Jacques.
Alors oui, non, il faut expliquer, c'est le clac-clac de la coquille Saint-Jacques qui s'ouvre, c'est ça ?
Voilà. Alors elle ouvre, elle se referme. Alors on est sur une plage de sable ou avec un peu de verdure, bien sûr à marée basse. Et elle est cachée, et ça fait clac clac. Alors on entend, on regarde où est-elle, puis on attend un peu, on reste statique, et puis on attend clac clac. Ah, elle est là. Alors on gratte un peu, puis elle est là.
Et là,
alors,
vous avez la coquille
Saint-Jacques. Et ça, c'est un plaisir. Et ça me résume, c'est-à-dire que j'ai envie d'être près de la nature, j'ai envie de la conquérir. Et aussi bien industriellement qu'à la pêche à pied.
Vous dites, les grandes marées sont restées un des points fondamentaux de ma vie. Oui. C'est beaucoup, non?
Oui, oui, absolument. Mais c'est-à-dire, j'ai la lumière démarrée et ouais. Je ne fais rien. Je prends mon agenda en début d'année et je marque les marées auxquelles il faut que j'aille. Et après, je dirais l'intendant suivra.
Alors vous, Olivier Ducastel, le son qui vous résume, ça n'a rien à voir avec les grandes marées puisque vous n'êtes pas du tout breton, vous n'avez aucun lien, même pas avec la Normandie. Enfin bref, ça n'a strictement rien à voir. Et donc, le son qui vous résume, c'est ça.
99, proceeded, 3, 2, 1, ignition. Right away, Houston. Bet you're good. X spot. Pitch over.
Alors nous célébrons le premier alunissage sur la, puisque c'était en 1969 que nous sommes en 2019 sur la Lune. Mais vous, c'est pas cet alunissage-là qui vous intéresse, Olivier Ducastel. C'est quoi ce qu'on vient d'entendre?
69, j'étais un peu petit, j'avais 5 ans, ouais, donc je m'en souviens pas. Non, ça c'est le dernier décollage depuis la Lune. Je sais pas si on dit ça comme ça. Ouais. Départ donc de la mission Apollo 17 de la Lune. C'est vrai que je me suis un peu cassé la tête, je savais pas trop. Et puis bon, voilà, c'est vrai que j'ai effectivement réentendu un certain nombre de sons, revu un certain nombre d'images à l'occasion de l'anniversaire de la première mission Apollo, du premier pas sur la Lune. Et du coup, je me suis souvenu en fait de cet événement-là parce qu'en fait, c'est une des toutes premières fois que je regardais très peu la télévision quand j'étais enfant, jamais tard. Et là, pourtant, j'ai quand même déjà 11 ans et donc je crois que c'était très tard. J'ai pas retrouvé l'horaire heure française, mais c'était à minuit ou quelque chose comme ça. Et c'est aussi parce que c'est un souvenir quelque chose que j'ai partagé avec ma grand-mère qui, elle, était né en 1904 et donc en gros était né à peu près en même temps que les avions et était totalement fasciné effectivement, enfin n'avait pas pensé quand elle était petite fille qu'il pourrait y avoir des hommes sur la Lune quoi.
Merci beaucoup Olivier Ducastel et Loïc Le Floch-Prigent. Vous avez tous deux fait preuve de beaucoup d'estivalitude. Alors Olivier Ducastel, votre film Haut Perché, réalisé avec Jacques Martineau, sortira le 21 août. Loïc Le Floch-Prigent, vous participez donc aujourd'hui même à Giromagny, près de Belfort, enfin à Belfort même, à un éloge de la lecture dans le cadre du festival Fort en Musique. Vous pouvez réécouter et podcaster cette émission sur le site de France Inter. Je vous rappelle qu'Estivalitude, c'est important, est réalisé par Juliette Medevielle et que l'émission a été préparée bien sûr par Saad Merzak, Pierre Goulencourt et Astrid Landon avec à la technique aujourd'hui Charles Pellabon. Notre boutique éphémère réouvre bien entendu demain matin à 9h sur France Inter. Je recevrai un chef de cuisine très rock, Jean Humbert, et une romancière tout aussi rock'n'roll, Safia Azedine. Allô, Cognac Jay.
Oui,
on
bonjour,
me dit que la liaison satellite est établie avec la permanence psychiatrique de l'hôpital de la Timone. Alors, Laurent Delmas, vous allez mieux?
Oui, je vous attaque pour plagiat. Vous avez parlé pendant un quart d'heure de musique et cinéma, c'est dingue. Dans Ciné qui chante, moi, je reçois Charles Gasson, le producteur. Avec lui, tenez-vous bien, on va évidemment danser la carioca. Ah, écoutez Paolo Conte, Brigitte Bardot, Barbara, Simon & Garfunkel et bien d'autres dont Jésus revient. Allez.
Eh ben, vous êtes formidable.
Merci.